beaucoup de causes méritent un plaidoyer. Le rugby, à mon avis, aujourd'hui, a besoin d'être défendu.
Ce qui est important, c'est les clubs.
C'est mon obsession. Et pourquoi c'est mon obsession? Parce que c'est une réalité. Je crois que l'erreur majeure, l'erreur initiale, c'est d'avoir voulu, depuis quelques années, singer, copier, s'inspirer de systèmes qui sont complètement différents des nôtres, où les jeunes joueurs de rugby sont éduqués, formés dans les collèges, dans les écoles et dans les universités. En France, ce n'est pas le cas. La France, sa cellule de base, c'est le club, et il n'y aura de rugby français fort que s'il y a des clubs forts. Et à l'intérieur de ces clubs forts, il faut des gens enthousiastes, heureux et respectés et qui puissent s'épanouir.
Alors une chose qui m'a frappé pendant votre plaidoyer, je garde ce mot, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est vous rencontrer des bénévoles qui n'ont plus le sourire. Ça, c'est bien dommage.
Ça me brise le cœur. Et je rencontre de moins en moins de gens heureux dans le rugby français. Et la spécificité de mon parcours fait que je les ai presque tous rencontrés. Quand je dis tous, c'est les dirigeants de série, d'honneur, de fédéral, de Pro D2, de Top 14. Je les ai tous rencontrés et j'en vois de moins en moins qui sont épanouis, heureux d'arriver au stade, heureux du match, regrettant bien sûr la défaite. Mais vous savez, deux champions de France, il n'y en a qu'un seul. Donc si tous ceux qui ne l'ont pas été sont malheureux, on va avoir du mal à continuer à être heureux dans le rugby français.
Les jeunes sur le terrain, il faut les faire jouer.
Mais évidemment. Si Roger Federer, il était resté dans un centre de formation jusqu'à 23 ans et qu'il n'ait pas beaucoup joué au tennis, c'est valable dans tous les sports. Pour progresser, il faut jouer contre des gens plus forts que soi. C'est le B.A.B.A. de toute la dynamique sportive. Et aujourd'hui, pourquoi on a du mal à fabriquer des joueurs extraordinaires alors que c'était la marque de fabrique du rugby français? C'était celui de fabriquer des joueurs merveilleux que le monde entier nous enviait. Mais ces joueurs, il faut qu'ils se forment, et le moment ultime de la formation, avant de devenir ce qu'a vocation à être un joueur de l'équipe de France, c'est-à-dire un des meilleurs du monde à son poste, il faut beaucoup jouer, et beaucoup jouer des matchs à enjeu. Parce que la culture du match difficile, c'est pas la même que quand on se passe le ballon dans une activité physique épanouissante, satisfaisante. Mais pour progresser, il faut jouer.
Pour former les joueurs, il faut aussi des formateurs. Et les formateurs, ils se trouvent bien sûr dans les clubs, on recentre encore.
Mais évidemment, et là encore, je ne voudrais pas trop intellectualiser la chose, mais il faut retrouver ce bon sens de l'évolution. Avant, un éducateur de club, s'il était très bon, il devenait entraîneur, puis il devenait entraîneur de l'équipe première, et puis après, il continuait à progresser. Il faut que l'énergie, les talents montent depuis la base et ne soient pas déclinés depuis une hiérarchie monolithique. C'est le terrain qui révèle les hommes. C'est pas les décrets, c'est pas les nominations. Il faut que ça soit les meilleurs qui montent et qui amènent leurs talents et leurs énergies à la structure centrale, et pas que ce soit la structure centrale qui décide « Toi, j'ai décidé que tu étais bon. » Ça ne peut pas marcher.
Alors on a bien compris ce que vous préconisez. Néanmoins, votre programme finalement, c'est quoi?
Alors, la base de mon programme, c'est effectivement une réorganisation des formats de championnat. Parce qu'il faut qu'il y ait des normes. Au-delà des déclarations de principe, il faut qu'il y ait des normes. Et je pense que le rugby français ne pourra se revitaliser que si on a une base d'élite plus élargie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que les compétitions de jeunes sont pensées en fonction d'une commodité d'organisation. Il faut que les jeunes jouent plus au rugby. Et il faut aussi redonner du pouvoir. Mais quand je dis du pouvoir, c'est aussi de l'autonomie et de la responsabilité. Dans mon programme, il n'y a rien de confortable. J'ai toujours dit, le rugby, c'est le rendez-vous de l'enthousiasme, d'une forme d'excès, je l'espère de l'élégance, mais ce n'est pas le rendez-vous du confort. Les gens de rugby ne doivent pas aimer le confort. Il faut aimer se mettre en danger, il faut aimer avoir des idées, il faut aimer les accompagner et il faut aimer les mettre en place. Il faut absolument que les présidents de comités départementaux et régionaux, qui sont ceux qui sont au contact directement, soient à l'écoute de leur club, mais soient aussi au service de leur club et s'adaptent, parce que le territoire français, ben, il n'est pas uniforme. Et une des grandes problématiques du rugby français, c'est effectivement cette trop grande concentration territoriale. Ça ne veut surtout pas dire qu'on en veut aux gens du sud-ouest. Moi, chaque fois que j'arrive à Toulouse et que je prends la route des Pyrénées, j'ai l'impression que j'arrive dans mon Disneyland à moi. Bien sûr que c'est là que s'est écrit l'histoire. Bien sûr que c'est là qu'il faut que continue à s'écrire la légende, mais il faut aussi faire des constats. Le rugby français, il n'est pas implanté de manière homogène et il faut, pour s'adapter, que chaque président de comité au service de ses présidents de club, vous avez compris que chez moi c'était obsessionnel, organise son rugby sur son territoire avec les atouts qui sont les siens et les handicaps qu'il aura.
Qu'est-ce qui fait la force de votre équipe ?
C'est qu'on n'a pas peur de perdre d'abord, qu'on a envie de gagner, et même si je suis tout à fait conscient de ce que cette formule peut avoir de démagogique, c'est que j'ai la certitude que notre équipe est celle qui, sans doute, est portée par l'objectif d'être au service du rugby français.
Prendre la décision de se lancer dans la bataille, c'est 60 points.
Ça a énormément compté, pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve que ça a été l'aboutissement et la démonstration d'un mensonge. C'est fini, ça ne marche plus. En 2011, bon, on avait, j'y étais, hein, en 2011, j'ai partagé la troisième mi-temps de Marc Lièvremont, de Pierre Camou, après la défaite contre les Tonga à Wellington. Mais il y avait eu le spasme. Et on s'était dit, eh ben, ça va continuer comme ça, et j'y ai cru. Et j'y ai cru, en disant, on va encore faire des miracles, on va encore sortir un match impensable, etc. Et là, ben, au fur et à mesure, les miracles, ils arrivaient de moins en moins. Et là, ben, on a été confronté à une réalité d'une violence insupportable, tout à la fois dans la performance, et je dois le dire aussi parce que ça m'a marqué, dans les réactions qui ont suivi immédiatement. Quand on prend 60 points en quart de finale de la Coupe du Monde, ça veut dire qu'on n'est plus invité. Et pour le rugby français, il est intolérable de dire qu'on ne peut plus être invité à la table des grands. Voilà.
Et pour finir, vous êtes ici à Sisteron. Pourquoi avoir choisi Sisteron ? Pas parce que c'est la porte qui a inauguré quand même.
Hein ? Ah, mais oui, je vous l'ai dit, je dis toujours la vérité. Vous savez que le bon avocat, pour être convaincant, doit être convaincu. Vous voulez que je vous le dise ? Parce que Eric Champ a des meilleurs rapports avec le président du club et que nous, on aime bien aller dans les endroits où on aime bien. Mais on ira aussi dans les endroits où on ne nous aime pas et on ne s'échappera pas.